C'est jour de forum pour la commission Laurent, la commission de Régine Laurent, qui est chargée de trouver les lacunes du système de protection de la jeunesse et de recommander des améliorations. Et là, on a appris que finalement, la DPJ avait vraiment manqué à son devoir d'intervenir dans la famille de cette petite fille de Granby qu'on a retrouvée morte l'été dernier. Je vous rappelle que la belle-mère est en prison, le père est en liberté, mais toujours est-il qu'on en apprend d'autres qui concernent cette famille-là. D'autres nouvelles, c'est qu'il y a un autre enfant dans cette famille. On ne peut pas dire le sexe de l'enfant. Je sais que vous le savez parce qu'il a coulé dans certains médias, mais on ne peut pas le dire. Il y a un interdit de publication, donc on va l'appeler X, cet enfant-là. Et ce qu'on sait toutefois, ce qu'on vient d'apprendre, c'est que cet autre enfant a subi des sévices qui sont de l'ordre de ce qu'avait subi la petite fille et ce qui a amené à sa mort. Il y a vraiment beaucoup de questions à poser aux intervenants de la DPJ dans ce cas-là, vous en conviendrez. Comment se fait-il qu'ils n'étaient pas au courant? Comment se fait-il qu'ils ne sont pas intervenus? Surtout qu'il y a un juge qui a rendu une décision là-dessus en disant, puis d'ailleurs le rapport du juge a été donné à Régine Laurent pour qu'elle en tienne compte, pour recommander des choses dans son rapport qui va être mis probablement le 30 novembre de l'année prochaine, de cette année en fait, 30 novembre prochain. Et donc, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il y aurait dû avoir des visites d'intervenants de la DPJ. Or, ils sont à peu près pas allés voir ce qui se passait dans cette famille-là. Avec nous, elle est avocate spécialisée en droit de la famille et elle représente justement la mère biologique de cette petite fille et de cet autre enfant. Valérie Assouline, merci beaucoup d'être avec nous, maître Assouline. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce que la juge a dit hier, par rapport à l'autre enfant de la famille?
Bien, c'est certain que cet autre enfant a vécu dans le même milieu de vie que cette petite fille qui est décédée. Donc, c'est certain qu'il a été témoin cet enfant-là a été témoin de tout ce que sa sœur a subi. Mais c'est un jugement surtout qui redonne la dignité à cette mère. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque sa fille est décédée, partout dans les réseaux sociaux, on parlait mal d'elle et on disait que c'était une mère indigne, alors que moi, je le savais que c'est une mère qui a d'autres enfants, qui en a trois autres à sa charge. Et ce jugement-là lui redonne un peu de dignité.
Oui. Le juge Mario Gervais a dit que cet enfant-là, le fameux X, qui a 5 ans, est déjà un écorché de la vie qu'il a vécu. Oui. Ce qu'il a vécu, c'est d'une lourdeur inouïe. L'enfant aurait même fait des commentaires à l'effet qu'on le mettait sous la douche froide, qu'on lui mettait la face dans la douche, qu'il ne pouvait pas parler parce qu'il n'écoutait pas les consignes.
Et ça, c'est un détail parce que cet enfant-là, il a vécu... D'abord, il a perdu sa grande sœur. C'est énorme. Et vous savez, quand les enfants vivent de la violence, ils sont très proches entre eux. Oui. Ça, n'importe quel psychologue vous le dira. Donc, c'est certain qu'il a perdu son monde et après, il a perdu sa mère, qu'il ne voyait que de façon supervisée, entre quatre murs pendant toute sa vie. C'est une histoire d'une tristesse inouïe. Le juge a promis qu'il allait rendre un jugement aussi avec le cœur. Il l'a fait et il nous a beaucoup touchés parce que ses premières phrases, il a cité les déclarations d'ouverture de Mme Régine Laurent, comme quoi elle avait l'intention de retourner toutes les pierres. Et il a parlé également de Tilili. Et ça nous a beaucoup touchés. On pleurait tous au bureau en lisant ce jugement.
Mmh. C'est un jugement, justement, du tribunal de la jeunesse.
Oui.
Ça vaut... C'est une cour qui a préséance et qui peut vraiment amener à des décisions?
Bien. C'est un jugement où on parle d'imputabilité du système. Et donc, enfin, oui, il y a une imputabilité. On ne peut pas, que ce soit les intervenants ou le système même, on ne peut pas toujours se cacher derrière une immunité. Et c'est ce que ce jugement-là vient nous dire. C'est que lorsqu'on ne fait pas notre travail ou lorsque une institution, par exemple, n'a pas eu les moyens, c'est ce que ce jugement dit, de défendre ou de représenter ou de protéger les enfants, il y a des gens qui devront assumer leur responsabilité.
Parce que c'est ce que dit en fait la grande conclusion de cette décision du tribunal de la jeunesse, maître Assouline, c'est de dire incroyable le manquement au devoir de la DPJ. Hein. Il est lapidaire envers le travail que n'a pas fait la DPJ. Mais il dit en même temps, mais c'est pas que de la faute de la DPJ, c'est tout le système, incluant finalement le gouvernement qui a pas donné les moyens à la DPJ d'intervenir adéquatement. Fait que finalement, c'est un peu la faute de tout le monde.
C'est un peu la faute de tout le monde et c'est aussi la faute d'intervenants qui n'ont pas été au bout des choses ou qui ont peut-être trop cru la parole d'un père manipulateur aussi. Il ne faut pas oublier qu'on parle de gens très manipulateurs. Mais il y a aussi un travail qui aurait dû être fait beaucoup plus rigoureux. On ne peut pas avoir un enfant qui arrive avec des bleus à l'école, par exemple, comme cette petite fille, et pas aller plus loin, et pas aller voir où est-ce qu'elle vit et comment elle vit. Et c'est ça là, qui est très grave.
Mais comment on peut expliquer qu'il n'y a pas eu de suivi de la DPJ alors qu'on savait que cette famille-là, elle était pointée du doigt, qu'il y avait des craintes par rapport au traitement des enfants dans cette famille? Quand j'ai appris que malgré tout ce qu'on savait des lacunes importantes dans la famille, entre mai et octobre 2018, par exemple, on dit une intervenante sociale n'a jamais rencontré XX, donc c'est cet autre enfant, ne l'a donc jamais connu, elle n'a jamais visité le milieu de vie de cet enfant-là. Un autre intervenant qui a pris le relais, parce que cette personne-là, la première intervenante est restée 6 mois et partie, il y a un gros roulement d'intervenants, on le sait, à la DPJ, c'est un vrai problème. Donc l'autre intervenant arrive, il prend le relais, lui voit l'enfant qu'une seule fois. Le père est présent. Là, déjà, en partant, ça ne marche pas.
On ne sait même pas s'il est rentré. Oui, exact. Et on ne sait même pas s'il est rentré voir les chambres. Ou on ne sait même pas, parce que le juge l'a souligné, il a vu, mais on n'est même pas sûr qu'il lui a parlé même à cet enfant-là. Et n'oublions pas dans ce dossier-là qu'on a une mère et une grand-mère qui n'ont pas arrêté d'envoyer des lettres. On a une mère qui est même allée au service de police là pour dénoncer parce qu'elle avait peur, parce qu'elle voyait ses enfants dépérir. On a une grand-mère qui a envoyé des signaux d'alarme. Et d'ailleurs, en mai 2018, on a une juge aussi qui en fait allusion, qui dit on a une grand-mère qui voit des signaux d'alarme partout. Oui, mais cette grand-mère-là, elle a vu le film arriver là. Et si on l'avait écouté, et si on écoutait plutôt ces parents-là qu'on a catalogués dès le départ, comme ce qui a été fait avec cette mère, où on l'a cataloguée comme une mauvaise mère, peut-être une folle, je ne sais pas ce qu'ils pensaient d'elle, mais ils ne l'ont jamais écoutée. Malheureusement, aujourd'hui, on a encore plusieurs parents au Québec qui ne sont pas écoutés et où on a des situations similaires. Alors, c'est très triste.
On a Alain qui est avec nous, qui nous appelle au 514-790-9850. Vous avez eu à faire affaire avec la DPJ, Alain, de ce que je comprends?
Bonjour, oui. En fait, félicitations pour l'émission.
Merci.
Oui, j'ai déjà fait affaire il y a plusieurs années, je dirais entre 25 et 30 ans, là, ça fait très longtemps, pour un petit problème familial là, où on avait séparation, mais c'est la mère qui avait la garde qui a eu la garde des enfants. Là. Mais ce qui est arrivé, c'est que supposément qu'il y a eu la DPJ qui a été appelée parce que la mère avait fait quelque chose à une de mes filles, une de nos filles. Puis avec tout ça, ce qui est arrivé, c'est que la garde, elle a été gardée par la mère, mais avec des allées et venues en cours, j'ai eu la garde de mes enfants. Mais la DPJ a toujours été dans le portrait, puis la DPJ a toujours suivi, supposément, puis il y a eu encore des appels à la cour parce que la mère les voulait, mais la DPJ est revenue avec ça. Puis la mère a eu la garde des enfants, puis moi, j'ai eu des visites après parce que la mère, ils n'ont pas gardé, ils ont envoyé en foyer d'accueil, famille d'accueil, foyer de groupe, en tout cas, tout ce que vous voulez. Puis moi, je voulais les avoir, mais je pouvais pas parce que la mère était écoutée, puis c'est la mère qui voulait pas que moi je les ai. Puis la DPJ avait aussi son mot à dire. Mais ce que je trouve étrange, c'est que aujourd'hui, j'entends des choses, puis je vois qu'il y a encore des histoires avec la DPJ. Puis moi, je pense que c'est juste une question de sous, c'est juste de l'argent. Ils font pas ça pour les enfants, ils font pas ça pour le bien-être des enfants, c'est pas vrai, parce que moi, aujourd'hui, je paye encore pour ça, parce que j'ai payé pour la DPJ. Puis j'ai payé pour placer mes enfants parce que la mère était sous l'aide sociale, puis je devais payer. Ouais. Puis je paye encore aujourd'hui. Là, j'en ai pour plusieurs années encore.
Merci.
Je vais être à la retraite, puis je vais payer encore.
Merci, Alain.
C'est juste pour dire que c'est du pareil au même depuis plusieurs années.
C'est une question de moyens financiers. Vous êtes d'accord avec ça aussi. Merci. Merci de votre témoignage. On va s'arrêter ici tout de suite après. On va poursuivre, bien sûr, là-dessus. Est-ce que vous faites encore confiance à la DPJ? C'est la question que je vous pose à la suite des dernières nouvelles qu'on apprend, là, qui sont reliées à l'histoire de cette petite fille qui est morte à Granby et qui a engendré, là, toute une analyse du travail de la DPJ. Il va y avoir le rapport de Régine Laurent en novembre prochain. En attendant, il y a quand même des enfants qui vivent dans des familles sur lesquelles on devrait évidemment beaucoup plus s'intéresser, pour lesquelles il faut agir, et pas dans 6 mois, malheureusement, tout de suite. À tout de suite, tout le monde. Est-ce qu'on peut encore faire confiance à la DPJ? Un autre verdict vient de tomber d'une certaine façon. C'est le juge Mario Gervais du tribunal de la jeunesse qui vient d'évoquer la lourdeur du drame et des sévices d'un autre enfant de cette famille dans laquelle est morte la petite fille à Granby l'été dernier. Évidemment, ça a été cette histoire à l'origine, vous le savez, maintenant d'une grande enquête là, qui s'intéresse aux agissements de la DPJ et qui devrait mener un rapport où on devrait avoir des recommandations pour le soin, le bien-être des enfants, justement, qui sont dans ce genre de famille violente et qui sont encore aujourd'hui maltraités par leurs propres parents. On a Caroline qui est avec nous. Bonjour, Caroline. Qu'est-ce que vous en pensez de toute cette affaire?
Oui, bonjour. Bonjour, bravo pour votre émission.
Merci.
Tout d'abord.
Oui.
Tiens, vous dire, moi, j'ai vécu une situation avec le DPJ. En fait, on m'a retiré mon fils, moi, en 2012, sur un simple risque de négligence sur le plan psychologique, parce que j'ai appelé dans une ligne d'écoute pour verbaliser le fait que mon ex-conjoint, il a écrit comme il flirtait avec d'autres femmes sur Internet. Et puis, j'ai juste appelé pour ventiler mes émotions. Je pense que c'est la personne que j'ai téléphoné là, qui a fait le signalement. Puis, la DPJ sont venus me voir. Ils m'ont dit que j'étais un risque sérieux de négligence sur le plan psychologique de mes enfants et puis que je devais absolument signer leur offre de service qui est l'entente sur mesure volontaire, sans absolument rien me dire, sans me tenir au courant de mes droits, sans même...
Mais on vous a enlevé votre enfant après ça?
En 2013, là, ça a été un long processus parce qu'en 2013, là, j'étais suivie parce que finalement, quand ils sont débarqués pour me dire de signer l'entente sur mesure volontaire, moi, j'ai dit, mais moi, je veux pas signer ça, là, j'ai juste eu de la peine, je signerai pas ça. Fait que là, on m'a dit comme ça, on m'a dit, mais si vous signez pas, madame, c'est le juge qui va décider si vous perdez vos enfants ou pas.
Oh, mon Dieu. Okay.
Alors, moi, j'ai eu peur. Je connaissais rien de la loi à ce moment-là. J'ai été intimidée par le DPJ. J'ai pas fait la bonne chose. J'ai signé leur entente sur mesure volontaire. Ensuite de ça, j'ai eu un suivi avec eux. En 2013, une travailleuse sociale de 23 ans, elle s'en va écrire dans un rapport que j'ai des problèmes de santé mentale parce que moi, j'ai une épée de Damoclès puis on menace de me retirer mes enfants. Ça fait de la peine.
Ouais.
Fait qu'on sent de ma peine pour aller attaquer ma santé mentale pour me discuter. Fait que depuis 2013, on disait que j'avais des problèmes de santé mentale. Ça me prend une expertise psychologique privée que j'ai fournie 5 ans plus tard avec ma 8e avocate.
Ouais. Pour être capable de justifier que vous n'aviez pas de problème, finalement, c'est ça?
C'est ça. Puis pendant ce temps-là, on a envoyé mon enfant chez le père. Il s'est fait battre pendant 2 ans. Maintenant, il y a les services de l'IVAC parce qu'une juge, 6 ans plus tard, a reconnu la violence du père. On lui a fait faire 7 milieux de vie en 3 ans. Mon fils, maintenant, il a un diagnostic de trouble de stress post-traumatique. Il y a 10 ans, il ne sait pas lire ni écrire. Il va à l'école seulement que le matin. Fait que moi, 5 ans plus tard, 8 avocats plus tard, après m'avoir discrédité sur ma santé mentale, on me redonne mon fils, toute maganée. Oh. Voilà, madame, débrouillez-vous avec ça.
Tellement désolée d'apprendre ça, Caroline.
Ouais.
Restons en ligne, on va prendre vos coordonnées. On aura l'occasion sans doute de se reparler. Voyez, ça, ce genre de cause-là, autant la DPJ... On la pointe du doigt en ce moment parce qu'on dit qu'elle n'intervient pas alors qu'il faut intervenir. Puis regardez cette histoire-là, Maître Assouline. Là, il y a une trop d'interventions alors qu'on aurait dû poser d'autres questions avant d'intervenir. Là.
Mais d'abord, on aurait dû poser d'autres questions. Mais le problème, c'est que la DPJ, quand elle débarque, souvent, ils arrivent avec l'attitude de juger le parent. Au lieu de venir pour l'aider, OK, vous avez un problème, par exemple, cette dame-là, l'intervenante, la bonne chose à faire, ça aurait été de lui donner un soutien. Ouais. Peut-être un soutien psychologique, de l'aider. Mais à la place, on la menace de lui prendre son enfant. Et ces gens-là ont peur. Et là, ils se retrouvent avec des intervenants, souvent, qui sont très jeunes. Comment est-ce qu'une jeune de 23 ans, avec le respect que j'ai pour les jeunes, là aussi, là, et leur formation, mais comment est-ce qu'elle peut venir me dire que moi, j'ai un problème de santé mentale, puis on doit m'enlever mon fils, et c'est pour ça que je dois signer des autorisations? Ça fait pas de sens, mais il y en a plein d'histoires pareilles. Et ensuite, on tombe dans la supervision des accès. Alors, ces parents sont supervisés comme des criminels. Et je peux vous dire que les parents d'enfants placés au Québec ont moins de droits qu'un prisonnier, là. Ils voient leurs enfants 1h30 par semaine. Le jugement du juge Gervais fait état, parce que j'ai spécifiquement été choquée du fait d'apprendre que la mère de Grimby, elle a vu son fils supervisé entre quatre murs pendant toute la vie de cet enfant. Et honnêtement, j'ai pas pensé initialement à la mère et à ce qu'elle souffrait. J'ai pensé à ce petit garçon, à cet enfant qui rentrait et qui allait voir son parent.
Toujours sous la supervision, ouais. Maître Azouline, on doit s'arrêter ici. C'est la fin de ce bloc-là, mais on aura l'occasion de se reparler sur cette histoire. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.